Salut, c'est Erwan. Je me permets ce petit message avant votre podcast pour vous parler du festival Silence on Joue, qui aura lieu le 25 mai prochain à la Cité des Sciences et de l'Industrie à Paris. De 10h à 22h, on vous prépare une journée qu'on espère passionnante, avec des discussions, des débats au cœur même de la Cité des Sciences, et une soirée mémorable dans un grand amphithéâtre. La billetterie est ouverte, le lien est dans la description des derniers épisodes, et vous trouverez aussi un lien vers la programmation. C'est 20€ pour la journée et la soirée, et si vous voulez juste passer nous voir en journée, il suffit d'une entrée classique pour la cité, c'est 13€ tarif plein avec éventuellement des réductions. C'est la première fois qu'on organise un truc pareil et on espère vraiment que vous répondrez présente et présent. En tout cas, nous, on a très envie de vous croiser, de rencontrer celles et ceux qui nous écoutent chaque semaine. Rendez-vous donc le 25 mai et je vous laisse avec votre épisode de Silence on Joue, ou de la bande-annonce, ou de Gâchette Gauche, ou de Dans la boucle. Enfin bref, bonne écoute.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Silence on Joue, Erwan Cario, bonjour. Aujourd'hui, on va parler, c'est un programme très chargé, de Professeur Winterbottom sur le live et sur Steam, de Football Manager 2010, bah oui, on n'en avait pas parlé à Noël, donc il faut bien commencer, mais version portable, les Pokémon Soul Silver qui reviennent sur la DS et qui reviennent en force, Dead to Rights Retribution, Monsieur Fall évidemment comme chaque semaine, et WarioWare Do It Yourself sur DS. C'est déjà ouh, ça va être beaucoup, mais je vais commencer en accueillant deux de mes chroniqueurs favoris et une invitée spéciale, Camille Gévaudan de l'équipe d'écran.fr. Bonjour Camille.
Salut.
Évidemment Clément Appape de Sens Critique. Bonjour Clément.
Bonjour Erwan.
Et Patrick Elio de Rogamer.fr. Bonjour Patrick.
Salut Erwan.
Wow. Non, là il y a eu des pièges.
Il a dit bonjour Erwan, normalement on alterne. Ouais, voilà, oui, il l'a fait, donc
il
fallait que je change.
T'as triché, il est de retour de vacances, il est trop en forme. Il est
n'importe quoi.
À 5h ce matin, et on n'arrive pas à le tenir. On commence d'ailleurs avec toi Clément, avec quelques news sur la 360.
Oui, quelques news. Bon, c'est des rumeurs pour l'instant, mais on peut les classer comme rumeurs crédibles et suffisamment fortes pour qu'on en parle. Elles concernent Natal et la nouvelle Xbox, enfin nouvelle. Justement. À l'E3, donc, qui aura lieu à mi-juin à Los Angeles, comme d'habitude, la grand-messe du jeu vidéo. Microsoft, on le sait, va faire deux conférences. Et dans une des deux conférences, et donc, il va annoncer son nouveau bundle Xbox 360 plus Natal, mais la Xbox serait redesignée, donc un peu comme la PS3 et la PS3
Slim.
Ça serait
bien ça, d'avoir un nouveau,
un
nouveau
look. Donc ça c'est quasiment sûr.
Ça serait pas plus mal, ouais.
Voilà, c'est quasiment mal, ouais. Sûr. On aurait donc une Xbox 360 Slim.
Pour l'instant, il n'y a pas du tout de
visuel. Il n'y a pas de visuel, mais d'après les fuites des gens qui auraient vu la bête.
Sources proches du dossier.
Proches du dossier, elle serait pas mal. Donc, on attend de voir.
Plus petite, sûrement.
Plus petite, voilà.
A priori, beaucoup plus petite, parce qu'ils ont quand même le temps. Elle est quand même un petit peu vieille. Ça peut se compresser, tout ça.
Tout à fait. Et elle serait noire. Voilà. Pour que par défaut elle serait noire,
comme l'élite en fait,
comme l'élite, mais aussi apparemment c'est surtout pour que la caméra natale en fait soit posée à côté des téléviseurs, ouais. Et donc qu'elle gère pas à côté de nos téléviseurs noirs. Et en fait, chose intéressante, la console aurait aussi un nouveau design du logo. Donc en fait c'est pas une nouvelle console.
Donc c'est une nouvelle charte.
C'est une nouvelle charte graphique. Ouais, ils vont un peu relancer, en fait, la console avec cette.
Bah, disons, c'est peut-être pour lui accorder 1 ou 2 ans de vie supplémentaire.
Voire même plus. Alors là, et aussi dans la case rumeur, un des premiers jeux Natal dévoilés à l'E3 serait un Metal Gear Solid. Donc voilà. Mais bon, ça, c'est vraiment dans la case.
Il y a déjà plusieurs rumeurs.
Cache-toi derrière ton canapé. Il y a des gardes dans ton salon.
Ça pourrait être excellent en termes de type de jeu, ça pourrait être rigolo.
Il faut se retrouver à 4 mètres de son téléviseur. Si en plus il faut avoir un canapé à porter pour se cacher derrière, non mais on s'en sort plus.
C'est, ouais.
on s'en sort plus. Patrick, oui, un petit anniversaire, une date.
On aime bien célébrer ici les anniversaires des vieilles machines qu'on a tous bien aimées. Et qu'est-ce qui sortait, à votre avis, le 26 avril 1990
Moi, je sais, j'ai noté le programme.
Bah oui, on en a parlé un peu avant. Donc, c'était la Neo Geo, évidemment, une console mythique qui nous a tous fait rêver à l'époque.
La Rolls des consoles.
Pour faire simple, c'était une bécane qui reprenait exactement le contenu des bornes d'arcade de l'époque au Japon. Elle avait un look, celle-là, où les jeux coûtaient un bras. Alors exactement, c'est une machine très très chère. Je crois qu'elle valait dans les 4000 francs la console et les jeux étaient dans les plus de 2000 francs. On les louait en général, on pouvait les louer.
Mais d'occasion, d'occasion, la console était à, je me rappelle, enfin les jeux
dans
étaient
les 2000 francs,
les jeux étaient à 1290 francs. C'était le prix en fait. Un jeu, c'était le prix de la Mega Drive à l'époque.
Souvent on louait. Il y avait des systèmes de location des jeux, etc. Et elle était sortie, je crois, quelques jeux genre Nam 75. Je sais pas si vous vous rappelez, un shoot qui était excellent. Magician Lord, jeu de plateforme, plein d'effets spéciaux,
Viewpoint.
Et il y a eu, elle a eu toute une carrière, il y a eu plusieurs déclinaisons de Neo Geo avec CD-ROM, etc.
Windjammer, excellent aussi.
Il y a eu plein de jeux mythiques et c'était vraiment un espèce de rêve inaccessible qui, depuis, a baissé de prix. Il y a eu quand même une décote des jeux sur Neo Geo.
Aujourd'hui, on la trouve à peu près sur eBay.
Elle est devenue abordable.
100-150 euros.
Je sais que j'avais acheté la mienne très très tard, genre en 2000.
Abordable, mais les jeux peuvent encore valoir très très cher.
Certains, les Metal Slug, je crois, le premier est resté très très cher. Enfin, c'est la machine mythique par excellence.
Et ça fait 20 ans.
Donc c'était le 26 avril.
Mais elle est encore d'actualité.
C'est vraiment une machine qui a marqué les esprits. Deux petites news rapides côté rétro gaming. Toujours, on a appris que la nouvelle version de Monkey Island 2, comme le premier, Monkey Island 2 va avoir droit à un remake redécoré, relooké, etc. va profiter des commentaires des trois créateurs, Ron Gilbert, Tim Schafer et Dave Grossman.
Façon bonus DVD.
C'est une super idée. C'est vrai que quand on fait un remake d'un jeu, comme au cinéma, lorsqu'on regarde un DVD, on aime bien les commentaires des gens qui ont travaillé dessus. Donc ça, c'est une super idée de LucasArts. C'est annoncé donc pour le remake de Monkey Island 2, donc ça ça arrive dans les prochains mois.
C'est-à-dire qu'on joue et les mecs parlent en même temps.
Exactement, on va voir les commentaires sur le.
Ceci dit, en fait, j'imagine que c'est beaucoup avec plus les ombres, compliqué parce qu'on voit sur les making of comment sont enregistrés les commentaires audio des films, où genre t'as le réal et un acteur qui viennent complètement comme ça, hyper en touriste, sur un studio et puis qui parlent dans le micro. De toute façon, on s'en fout, personne va l'écouter. Mais par contre, pour faire le commentaire d'un jeu vidéo, c'est beaucoup plus complexe.
D'après ce que j'ai vu, on aurait les silhouettes des personnages qui vont apparaître en surimpression dans un coin de l'image. Ça va vraiment être intéressant à suivre. Et une dernière nouvelle, c'est pas une très bonne nouvelle, ça va faire de la peine à certains. C'est la fin des disquettes 3 pouces et demi. C'est Sony qui a annoncé qu'ils allaient arrêter la fabrication.
Ça va faire de la peine, on sait pas qui, mais.
En mars 2011. Et voilà, bon, c'est rigolo, parce qu'on a tous manipulé des centaines de disquettes.
Dans des cartons au fin fond d'un tiroir, on en a tous.
Bien sûr, évidemment. Moi, j'ai encore des jeux avec qui étaient des fois.
Mais je crois que je me suis à peu près débarrassé de toutes mes VHS. Mais parce que,
elle a quand même été tuée par la clé USB, cette disquette. Il faut reconnaître que. Et bon, il y a aussi des mauvais souvenirs avec la fiabilité qui n'était pas toujours terrible. Mais bon, voilà, c'est une petite page de notre histoire du jeu vidéo qui disparaît avec cette disquette.
Exact. Juste une petite news parce qu'on en avait parlé il y a deux semaines avec Joël notamment qui était allé faire un tour au musée du jeu vidéo. Sur le toit de la Grande Arche de la Défense. Et donc là, vous êtes peut-être au courant, mais alors, c'était ce qu'on appelle couramment un fail. C'est-à-dire que deux semaines à peine après son ouverture, le musée du jeu vidéo est contraint de fermer pendant 4 mois.
Ce sont les ascenseurs.
Pour une stupide panne d'ascenseur. Et voilà. Donc en fait, ça ne concerne pas. Alors c'est vrai que ça a l'air d'un fail pour le musée du jeu vidéo parce que c'est deux semaines. En plus, ils avaient fait un super spot où ils avaient récupéré le travail de Patrick Jean qui avait fait Pixel. Donc ils avaient fait un spot qui se passait à la Défense avec le Donkey Kong et tout ça, qui était vraiment magnifique là pour le coup. Et ça vaut aussi pour toutes les expos du toit. Donc le musée de l'informatique par ailleurs est aussi fermé pendant cette durée-là, sachant qu'il y a Museo Games donc qui débarque en juin. Donc c'est avec l'association MO5 et le CNAM et de juin à novembre. Donc là, il va y avoir de la concurrence. Ils vont souffrir un petit peu, le musée du jeu vidéo et leurs 200 mètres carrés. Le com des coms de la semaine dernière. Alors, c'était la semaine musicale, hein, Patrick. On s'est bien amusé quand même. Alors, il y a Red qui était un des grands qui avait fait pas mal de propositions.
Il avait proposé plein de titres.
Il avait proposé plein de titres et il dit vous avez omis les trois noms de compositeurs. Donc, il faut les citer.
C'est vrai qu'on les a pas cités.
Outrun, c'est la Sega Sound Team. Flower, c'est Vincent Diamant. Et pour Heavy Rain, c'est Norman Corbeil. Voilà, pour les musiques. Et évidemment, dans ce cas-là, on avait, je crois, sélectionné 7 ou 8 morceaux. Et évidemment, tout le monde y va de « Mais non, mais vous avez oublié ça !» Alors, en vrac, ce que nous avons oublié, mais alors c'est entre autres Rumbur, Petit Juju et Boom Chacal. Alors, ils citent Supremacy, Opération Stealth, Chuck Rock, Test Drive 2.
Ah, Test Drive 2,
Chris Hulsbeck, Turrican, Turrican 2, ouais. Et aussi un inoubliable, mais en fait, il y a que lui.
Encore de l'Amiga, il y a quand même beaucoup de jeux sur Amiga.
Donc ouais, le One Mo- ouais, bah, ils ont été très très séduits. Hein. Ouais. Il y a le One Must Fall 2097, ah, ouais. Et voilà. Et autrement, qu'est-ce qu'il y avait des... Il y avait Duke Nukem 3D, Ghost and Ghost, Mario ou Zelda, mais on en avait déjà passé sur la première, un Mario, je crois. Bubble Bobble, Doom,
on pourrait en faire encore.
En même temps, c'est bien parce que ça nous arrive. Peut-être une autre fois, donc je reviendrai sur ce sur ce forum. Arriver, ouais. Et il y a quand même une belle, encore une fois, Red qui répond à Knuckles. Knuckles, c'est d'ailleurs, c'est un petit peu à, c'est destiné à Marc, notre réalisateur. Une question, les bruitages du générique du podcast, ils sont issus de quel jeu? Et alors là, je pense qu'ils sont issus de pas de jeu, hein, pas vraiment. Donc je, Marc me confirme ça, c'est Marc donc, qui, c'est a composé, perso, qui a composé le, morceaux, hein. Le générique. Mais quand même, il y a Red qui a décomposé le générique, et là, c'est quand même assez impressionnant. Donc, dans le générique, on trouve un tir long, un bip doux dans le fond, un swatch dans le fond, une alarme, une bande son plus voix tout du long, coup de feu A, croisement, combat d'épée, coup de feu B, bombe A, coup de feu B, coup de feu C, coup de feu D, bombe A, bombe B et un laser. Voilà. Épée laser de... Un sabre Star laser, Wars, en fait. Hein, voilà. De Star Wars. Voilà. Donc, un petit décryptage de notre générique. Clément, quand tu en parles, ça fait envie quand même, ce professeur Winterbottom.
Winterbottom, oui. Alors, c'est développé par une petite équipe d'indépendants qui s'appelle les Odd Gentlemen. C'est un jeu, alors vraiment, qui vient juste de sortir sur Xbox Live Arcade et sur Steam. Alors, terriblement impressionnant. Moi, franchement, c'est mon coup de cœur. Enfin, pour l'instant, hein, c'est mon coup de cœur 2010 et de loin.
Et on a eu du gros quand même en 2010.
Ouais, et on a du gros. Ouais. On a eu du gros. Enfin, moi, vraiment, pour l'instant, il me plaît énormément. Alors, dans la forme, alors, on suit donc le professeur Winterbottom, qui est une sorte de Arsène Lupin ou de gentleman cambrioleur, en fait, avec qui je partage un vice, celui du sucré. Puisque, donc, son but, c'est d'arriver, en fait, à manger une tarte.
L'identification a marché, non?
Toujours, voilà.
En tant que...
La petite bedaine, le gros nez, voilà. Et en fait, donc, son but, c'est dans chaque niveau d'aller récupérer une tarte, voilà, c'est le but du niveau. Et en fait, ça rappelle, alors, dans le gameplay, ça rappelle beaucoup Braid, puisque on voyage non pas dans le temps, mais on se crée des clones. En fait, en appuyant sur une touche, on peut préenregistrer une action. Donc, c'est un mélange de puzzle, plateforme. Et contrairement à Braid, on peut se créer. Donc, Braid jouait vraiment sur le concept de temps.
Ouais.
Là, en fait, on se crée des clones à qui on fait faire des actions. Et au fur et à mesure, il y a quoi, 5 gros mondes, et au fur et à mesure des mondes, on apprend petit à petit, en fait, à développer plusieurs clones, et à la fin, on finit avec 15 ou même 20 clones.
Ah ouais.
Donc voilà, on crée.
Il y a quelques jeux Flash qui ont utilisé ce système de retour dans le temps avec des clones et des choses comme ça. Dernièrement, il y avait The Company of Myself qui avait été assez exceptionnel sur le niveau. Voilà, bref.
Auquel j'ai pas joué, mais c'est vrai que voilà, Braid a ouvert une brèche. Et professeur Winterbottom vraiment s'y infiltre avec brio, parce que en plus de ce concept là qui est vraiment bien pensé, donc vraiment c'est très très bien pensé, même si parfois moi j'étais parfois frustré parce que la difficulté
même à mon avis, s'ils l'ont pensé graduel, parfois, pour le coup, c'est vraiment dans la tête qu'on n'arrive pas vraiment parfois à débloquer un truc.
C'est ce qui se passait dans Braid aussi. Ouais, hein, ouais. Vraiment.
On n'a pas débloqué un truc, mais c'est vraiment bien. Et alors aussi, le gros avantage de ce jeu, c'est qu'au niveau habillage, il est tout simplement splendide. Mmh. Parce que donc il est en noir et blanc, et il reprend beaucoup des codes du cinéma muet, notamment dans sa présentation, parce qu'on a des intertitres avec des qui nous expliquent un peu ce qu'il faut faire, qui nous font avancer l'histoire.
Façon Chaplin,
ouais. Tout à fait. Aussi, moi, en fouillant un peu, j'ai vu, parce que ma culture cinématographique classique, vieille, est assez limitée, mais effectivement, il y a des références à Fritz Lang, il y a des références à Chaplin, il y a beaucoup de films, en fait, dans les univers. Et il y a une musique aussi qui est fantastique, prenante, et le décor, le design est, enfin, moi, ce qui a fait que ça marchait, c'est vraiment une alchimie qui se crée entre tout ça. Le gameplay est vraiment prenant, la musique est bonne, l'identification au personnage. Non, vraiment. Alors, cerise sur le gâteau, sur PC, il vaut 4€ sur Steam. Il vaut à peu près 10€ sur
Xbox. Sur la capture sous les yeux, il y a un truc, quand même, qu'on voit le personnage. Je confirme,
Non, c'est vraiment extrêmement bien pensé. C'est, franchement, moi, je le conseille à tout le monde. Voilà. 4€.
Moi, pour ma part, je vais me jeter dessus.
4€ sur Steam, on perd pas grand chose à essayer. Ça vaut vraiment.
Tu l'as essayé sur Steam, pas sur.
Ouais, sur Steam, ouais. Sur Steam, ouais.
Enfin bon, on en reparlera peut-être, sans doute. Hein, si moi, je sais que je vais l'essayer très rapidement, en tout cas. Pour la suite, Football Manager 2010. Je ne vous en avais pas parlé parce que j'avais délégué un peu le test de la version 2010 de Football Manager à Camille, ici présente pour Libération. Et c'est vrai que j'avais un peu échappé déjà à Football Manager 2010 parce que pour moi, c'est un peu de la drogue dure. Ce jeu-là, quand je commence, c'est horrible. Je finis à faire 3-4 saisons avec le même club. Ça prend des heures et des heures. Enfin bon, bref.
Quand tu dis des heures et des heures, c'est pas 8-10 heures, c'est 60, 80,
voire plus.
C'est beaucoup d'heures.
Et surtout, en fait, il y a ce problème avec Football Manager qui est le one more game. C'est-à-dire qu'on finit un match et puis on
t'enchaîne.
Voilà, et juste il est 2h30 du matin. Logiquement, tu dois te lever le lendemain matin et puis.
Allez. Comme tu viens de finir le match et que tu vois à peu près ce qui a pas marché dans ton équipe, après t'essayes de l'arranger, tu modifies les entraînements, tu refais les positions, puis après pour voir si ça marche, il faut que tu fasses juste un petit match pour.
On peut accélérer les matchs, on n'est pas obligé de les. Ça s'accélère.
Oui, ça s'accélère, ça met pas 90 minutes évidemment par match, mais ça prend bien 10 minutes parce qu'il faut gérer les changements, il faut gérer les.
Et entre deux, préparer les.
Ah oui, non. Ouais, et alors, il suffit que tu sois en période de transfert, et là c'est bon, tu fais une nuit blanche parce que alors le trouver la perle rare au fin fond du Chili ou.
Là, tu joues sur quel bécane.
Et donc voilà, donc en fait, moi j'ai joué sur iPhone. On m'a proposé, les gens de Sega m'ont proposé d'essayer. Donc j'ai fait l'erreur d'accepter cette proposition et
tu savais comment ça allait finir, tu le savais très bien.
Non, je savais pas parce que alors c'est le problème c'est que Football Manager année après année, surtout ces dernières années, ces 4-5 dernières années a énormément évolué. Moi j'avais commencé en 2003, je crois, et à l'époque c'était que du texte. C'est-à-dire qu'il y avait comme des commentaires du match et puis on voyait but,
du Excel quoi, machin, une espèce de tableau Excel.
Non, mais des commentaires qui apparaissaient sur des différentes actions, machin passe à truc, machin dribble, arrive sur la surface, court, tire, c'est le but et tout ça. Mais non, mais tu finissais à lever les bras au ciel parce que t'avais but pour l'Orient quoi. Enfin voilà, c'était hyper content. Et en plus ça s'est amélioré, c'est-à-dire qu'ils ont fait la représentation du terrain, puis une petite représentation en 3D et puis il y a eu plein de choses, des relations avec la presse, les relations avec les joueurs, ils ont enrichi les stades, les bases de données, etc. Et c'est vrai que moi j'étais un peu dubitatif de voir ça sur mon petit écran d'iPhone avec la puissance de calcul de l'iPhone parce que quand même ça bouffe bien de puissance de CPU et tout ça parce que il y a quand même un mort
de calcul. Il y a la base de données, c'est la fameuse base de données qui est le point fort du jeu.
Bah oui, parce qu'ils ont je crois 350 000 joueurs enregistrés sur la base de données du PC, c'est monstrueux.
Et il y a tout ça sur l'iPhone.
Non. Et donc en fait, si Football Manager version PC est une drogue dure, on va appeler cette version portable de la méthadone. Donc c'est une espèce de compensation, palliatif.
En attendant la prochaine version.
Voilà.
PC,
Et puis pour jouer dans le métro, dans ce genre de choses.
Mais on peut quand même y jouer si on n'a jamais joué à un jeu PC complet, etc. On trouve quand même son bonheur.
Oui, et je pense que c'est une manière de commencer avec Football Manager parce que c'est beaucoup plus simple. C'est-à-dire que par exemple les tactiques pour gérer les tactiques de son équipe dans Football Manager, tu peux placer tes bons hommes un peu précisément sur le terrain, lui dire toi t'as une tendance à aller vers la gauche, vers l'avant, toi tu recules
le tactile est bien pris en compte du coup pour
non pas du tout l'écran est trop petit pour gérer
tu leur parles pas tes joueurs virtuels
non aussi sur PC évidemment
tu leur parles
enfin pendant les matchs surtout
mais c'est vrai quoi
ça c'est une des nouveautés de la version 2010 c'est qu'on peut leur crier des trucs hors de la mi-temps quoi pendant qu'ils sont en train de jouer.
Voilà, et donc mais cette version portable, elle est c'est une version très 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 limitée. Par exemple, toute la représentation du terrain vue du dessus avec les petits points, donc on n'a pas la 3D évidemment, mais la représentation vue du dessus avec les petits points des joueurs qui représentent les joueurs pendant les actions fortes, en fait, elle est complètement buggée, c'est-à-dire elle est inintéressante, et ce qui fait ça a un côté un peu old school, ce qui fait que pour vraiment profiter de cette version de Football Manager, faut revenir carrément aux versions 2003, c'est-à-dire au se contenter du texte.
Parce que tu peux te contenter du texte.
On peut se contenter du texte. Et en fait, finalement, moi, j'ai enlevé toute la représentation graphique et je me contente du texte. Après, voilà, il y a tellement de choses en moins que c'est pas la peine de les énumérer. Mais
au niveau base de données, ça, il y a quand même des...
Ah, il faut pas être trop exigeant. Les systèmes de recherche de joueurs sont pas aussi bien. Par exemple, il y a plein d'options. Je vais pas les énumérer toutes, mais par exemple, on ne gère pas son staff. C'est-à-dire l'entraîneur adjoint, les recruteurs, etc. On va pas les voler aux autres clubs, etc. C'est par défaut. Les tactiques d'entraînement,
Mais Cécilie, ça peut être. Moi, je sais que comme tu adores Football Manager, moi j'avais essayé de m'y mettre et j'avais pas réussi. Hein. Ouais. Et pourtant, et donc peut-être que je vais commencer à m'y mettre. Avec
alors,
celui-là,
j'ai pas trop d'avis là-dessus parce que moi je connais bien le sujet, mais j'ai un petit peu peur que parce que Football Manager, ce qui est bien et pourquoi est-ce que tu t'es investi, pourquoi t'as envie de jouer tout ça, c'est parce que t'as un sentiment d'un truc énorme derrière. T'as un sentiment d'avoir une base de données ultra réaliste. T'as un sentiment de connaître les joueurs et tout ça. Et même si tu maîtrises pas le jeu au départ, t'as ce sentiment de presque réalité sur ce qui se passe sur le terrain et tout ça, et que ça t'incite à aller plus loin. J'ai peut-être un peu peur que quelqu'un qui commence par cette version-là se dise bon bah c'est un petit jeu de management, de gestion, pas tout pourri, il est acceptable mais bon.
Et coûte combien sur iPhone?
Il coûte 10€ sur iPhone et je pense que parce que c'est le même titre, c'est Football Manager 2010 OLED, ça doit être une version assez équivalente en PSP, mais j'ai pas essayé celle-là. Voilà, c'était Football Manager 2010 et je joue encore dans le métro avec et j'arrête pas. J'ai pris l'OM, tout ça. Je viens de battre le Real Madrid. Enfin bref, je ne vais pas m'étendre. Oula. Et là, vous venez de voir en direct la capture d'un Pokémon. C'est beau, quand même, il a fini dans la Pokéball et tout.
C'est une version super énervée, super accélérée.
Je sais pas, c'est celle que j'ai trouvée sur Internet, pour tout te dire. Et voilà, donc Pokémon Soul Silver, c'est vrai que dans Silence on joue, on atteint notre niveau d'incompétence. Hein. Je pense que Patrick, Clément, vous serez d'accord pour l'admettre.
Oui,
je me rappelle encore de l'apparition en septembre de la Minute Culturelle qui a commencé par cette question. Quelle est la version évoluée de Pikachu?
Raichu, bien sûr.
Voilà.
Il a révisé à midi.
Il a révisé à midi et vous ne le saviez pas, c'était quand même le Pokémon le plus célèbre. Et donc, on est un peu à poil, sauf que, encore une fois, ça fait quand même combien d'années maintenant les Pokémon? Ça fait 13 ans.
13-14 ans.
13-14 ans qu'ils sont débarqués en France. Et encore une fois, les Pokémon Silver, Soul Silver et Gold quelque chose, la semaine de leur sortie, ils étaient en haut des ventes
jeux
vidéo. C'est sur DS, c'est soi-disant la console où plus rien ne se vend. Et là, ils ont cartonné, ils ont tout cartonné. Donc, on a proposé à la spécialiste locale, Camille, de venir nous parler de cette version. Et en fait, toi, tu n'y croyais pas trop quand tu as reçu la version.
Spécialiste, moi, j'avais arrêté de suivre les Pokémon depuis les toutes premières versions et je ne savais pas que ça se vendait encore. Mmh. Et j'ai redécouvert que ça existait quand tu m'as mis la version dans les mains en me disant « Tiens, c'est la nouvelle, joue ». Bon.
Non, je suis pas aussi.
Sympa.
Non, mais...
Sympa Erwan.
Je suis pas aussi autoritaire.
Le chef sympathique.
C'est directif, ouais.
Bon, en même temps, vous êtes. Je sais pas si vous avez un chef qui vous ordonne de jouer, hein, vous êtes pas forcément mécontent non plus. Voilà.
Non, d'abord. Bon, en vrai, j'ai jeté des petits coups d'œil intéressés sur la boîte. Ah, ça existe encore. Et puis, bon, bah, ça atterrit dans mes mains. Et puis, en fait, je suis retombée dedans parce qu'il s'avère que c'est pas une toute nouvelle version, c'est un remix. De la deuxième génération de, je crois que c'est ça, je me plante pas. Hein. D'abord, il y a eu rouge, bleu et jaune, un tout petit peu après. Et après, la deuxième version, c'était or et argent. Et après, il y en a eu d'autres, donc plein de pierres précieuses, voilà, perles, cristal, je sais pas quoi. Et là, c'est, maintenant, ils viennent de ressortir donc des remixes de la deuxième génération qui sont argent.
Qui
datait
de la Game Boy
or.
Color, je crois, si je dis pas de bêtises.
Ouais, c'est ouais, ça, ouais, hein, Game Boy Color. Version, ouais. Donc ouais. J'avais un peu joué sur Game Boy Color et là je redécouvre et donc c'est exactement la même histoire, exactement les mêmes personnages, les mêmes Pokémon, c'est-à-dire que à chaque génération ils en rajoutent normalement une centaine ou 150, ce qui fait que maintenant en tout on doit en avoir 500, 600, enfin c'est colossal. Et j'avais peur d'être complètement perdue, donc là ils sont revenus aux 250 à peu près initiaux, donc ça va, on s'en sort.
Oui, parce que tu les connais à peu près tous. Mais comme tous les gens qui ont joué à l'époque, ça crée une culture Pokémon. Moi,
j'avais joué un petit peu, mais pas plus que ça. J'avais joué 8-10 heures, ce qui était sympa, mais enfin, c'était déjà beaucoup pour moi, pour un Pokémon.
Mais ce qui est que dalle pour un joueur de Pokémon.
Exactement. Ce qui est vraiment rien.
Mais ça reste, du jeu de rôle très, enfin, moi, c'est pareil, j'ai joué un petit peu, je sais plus à quelle version. Et très vite, on se rend compte que c'est très addictif quand on commence à jouer.
Parce que c'est basé sur
un jeu de rôle très simple, très, simple au début, ouais. En tout cas, qui paraît simple et qui est très vite addictif.
Voilà. Bah d'abord, faut entraîner tes Pokémon, sinon tu peux pas avancer dans le jeu, puisque c'est ponctué en fait à chaque fois que tu arrives dans une nouvelle ville. Il y a des arènes dans lesquelles il y a des champions spécialisés dans un seul type de Pokémon, donc soit les feux, les glaces,
oui, parce
eau,
que c'est,
des trucs
c'est,
comme ça.
C'est un Shifumi quoi, c'est pierre, papier, ciseaux. Enfin, en gros, c'est ça, c'est ouais. la terre qui, enfin, le oui, feu oui, voilà. qui est mieux contre la glace et la ouais. terre. Je sais plus ce qu'il y a d'autre.
Et en fait, si tu connais pas les trucs qui sont efficaces contre d'autres, tu peux les deviner parce que ça suit la nature quoi. Le feu brûle les plantes, des trucs comme ça. Mm-hmm. Et donc, comme à chaque fois les champions des différentes villes montent de niveau, t'es obligé de suivre et t'es obligé d'entraîner tes Pokémon à fond jusqu'à ce que tu sois capable de le battre et d'avancer.
Et quand même le puis, principe de base c'est la collection.
La collection quoi. Ouais. Et tu te prends d'affection pour ces petits machins et t'as effectivement envie de tous les avoir quoi.
Mais rigolez pas,
on rigole pas. L'affection, c'est quelque chose de très.
Est-ce qu'il y a
positif,
des passerelles entre les deux versions? Est-ce qu'il faut avoir
je ferai réécouter des trucs sur Supreme Commander, toi. Tu verras.
des personnages ou pas? Est-ce que parce qu'il y a deux versions qui sortent en même temps là
Mais ils n'ont jamais changé de principe depuis la toute première génération. C'est-à-dire que pour profiter à 100% du jeu, t'es obligé d'avoir un copain qui a la version complémentaire.
Comme ça, on échange.
Parce qu'il y a des Pokémon qui a que dans l'argent, d'autres qui a que dans la or, et il y en a qui n'évoluent aussi. Enfin, ils évoluent une première fois tout seul, et ensuite ils évoluent que si tu l'échanges avec un copain.
D'accord,
donc tu peux pas aller au bout si t'as pas de pote.
Et encore, ça suffit probablement pas, parce que je me rappelle, moi, ce qui m'avait marqué à l'époque, c'était assez innovant dans le marketing du jeu vidéo, c'est que si t'avais aussi un pote qui avait donc la version complémentaire, il fallait aussi que si t'étais, enfin en tout cas au Japon, un peu aussi en Europe, il fallait aller sur place à des événements, et là ils distribuaient les Pokémon rares,
des versions spéciales,
les
oui,
Mew,
sur les salons.
Ouais, sans dire de bêtises, il y avait Mew, machin, etc. Et même parfois, si t'allais bouffer au McDonald's au Japon, t'avais la version spéciale du truc. Donc c'était les premiers trucs mélangés, voilà, transmédia, voilà, ouais. où tu devais aller un peu partout, et c'était
assez étonnant. Il y a une nouveauté.
Assez étonnant en termes de marketing.
Avec l'accessoire sur la dernière version.
Alors oui, d'abord les nouveautés dans le jeu, c'est quoi, en fait? C'est juste un lifting graphique?
Non, parce qu'ils ont intégré plein de trucs qui sont apparus dans les versions intermédiaires et auxquelles les joueurs apparemment se sont habitués. Moi, je sais pas parce que j'ai pas fait les autres versions. Mais il y a plein de nouveaux trucs, genre le Pokéathlon, qui est des espèces de mini-jeux où tu profites pour la première fois vraiment de l'écran tactile, parce que sinon ça se joue entièrement au bouton. Hein.
Ouais. C'est vrai que c'est un peu l'intérêt de faire
et
une
dans
version
les mini-jeux, tu prends le stylet, tu bouges des Pokémon pour leur faire sauter des haies, pour leur faire attraper des drapeaux et tout, et ça sert à pas grand-chose, à part à gagner des points, mais c'est marrant, quoi.
Ça dynamise un peu le gameplay. Parce qu'il faut quand même revenir à la base, les Pokémon, c'est du RPG Jap quand même très 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 complet, quoi. C'est pas
C'est des jeux tactiques tour par tour, en fait, c'est ça.
Ouais, voilà, c'est ça. On retrouve du principe de combat, du principe d'expérience, la collectionnite.
Il y a un vrai jeu de rôle derrière.
Oui, et puis on retrouve des systèmes de collectionnite dans énormément dans les RPG Jap, ne serait-ce que les Dragon Quest très très connus. C'est le même système de collection de monstres, et voilà, enfin, c'est quand même un truc de base. Et alors, au-delà de la DS elle-même, il y a quand même l'accessoire qui tue.
Le Pokéwalker.
Ouais, que moi j'appellerais une Pokéball, hein, parce que c'est une balle. Enfin, c'est le truc, voilà, que tout le monde a rêvé d'avoir en ayant joué aux Pokémon. C'est les Pokémon dans sa poche, en fait.
Voilà, mais en fait c'est un podomètre. Donc, il y en avait déjà avec la version jaune, mais c'était un petit Pikachu. Et en fait, c'était un Tamagotchi, quoi. On lui donnait à manger. Il faisait du parapente. Il était content. Il était pas content. Puis c'est tout. Et là, ça sert vraiment à quelque chose, puisqu'il y a des. Alors, on peut mettre un Pokémon du jeu dans le Pokéwalker par infrarouge. Après, on le balade dans sa poche. Plus on marche et plus il accumule de l'énergie. Cette énergie, il la dépense en trouvant d'autres Pokémon et des objets dans les herbes. Donc, il y a une espèce de mini-menu. Et il y a des Pokémon qu'on peut attraper que dans ce podomètre et pas dans le jeu.
Et tu dois interagir avec le podomètre ou c'est automatique? Tu dois cliquer, il y a des mini-jeux dedans? Ou alors juste tu marches et automatiquement, c'est juste dans le fait de marcher qui évolue?
Bah, il y a les deux. En marchant, il peut trouver des objets au hasard. T'en as un ou deux maximum par jour. Et sinon, si tu veux chercher des Pokémon ou des objets toi-même, c'est des mini-jeux, faut que tu le fasses.
Voilà. Et
après, le soir, tu le remets dans ta Game Boy.
Il y a le système de combat dans ce petit bidule-là. Alors,
super simplifié,
c'est-à-dire
pour dire,
c'est à la limite de la taille d'un porte-clés, hein. Et avec un écran quand même assez sympa, où il y a tout le, on les voit.
C'est simple, non?
Non, mais c'est très très simple. Mais il y a un système de combat
C'est noir et blanc,
c'est
un truc tout basique. Chaque Pokémon a quatre petites barres. T'as attaque, Pokéball, fuite. Et c'est tout.
Donc, si tu rencontres un copain qui a le même accessoire, tu peux les faire se battre.
Je crois que, ouais.
C'est ça?
Je crois que si on a un copain qui a le. Mais il faudrait que j'ai des potes, mais j'ose pas trop demander.
Sors ton Pokémon.
En soirée, tout ça. Mais t'as pas une Pokéball?
Ça peut être gênant.
Voilà. Et donc, quand même, t'étais pas convaincu au départ. Et là, deux semaines plus tard.
Et j'ai fait la maligne et puis je sors plus sur mon Pokéwalker dans ma poche.
Voilà, c'est ça. Pour vous raconter, au début, non, mais tu me vois marcher avec ce truc dans la poche. Et là, ben, quand on va prendre le café le matin, elle regarde son Pokémon dans sa poche. Non, mais là, il faut assumer aussi. Hein. Moi, j'ai bien eu l'espèce de podomètre de Nintendo dans ma poche pendant deux semaines. Hein. Bon, voilà, chacun ses vices quand même.
Non, mais je commence à arriver à la fin du jeu. Faut optimiser là. Ouais, c'est important.
Le danger du jeu vidéo, c'est.
Donc, t'as la fin du jeu au bout de combien d'heures de.
Là, j'en suis à 59.
D'accord.
Ah, quand même, ouais.
Ah, quand même.
Enfin, à la fin de la première partie, en fait, parce qu'après tu débloques une deuxième carte, je sais pas trop ce qu'il y a dedans.
D'accord.
Donc, Clément, avec tes 8 heures de jeu.
Oui, non, Pokémon, non, c'est clair, je suis très humble. Voilà.
Donc voilà, Pokémon Silver et Gold Remix, tout ça. Alors, il y a les diamants et tout ça qui arrivent, hein, évidemment, sur DS. Et
c'est coûte quoi? C'est coûte une quarantaine d'euros, à peu près.
C'est le prix des jeux, DS. Évidemment, ça, c'est les meilleures ventes du moment, hein. Moi, ça me sidère toujours. C'est quand même le concept ultime qui dure 13 ans et qui change pas d'année en année. On continue avec Monsieur Fall de TrickTrack.net et sa chronique Jeux de Société. Bonjour Monsieur Fall.
Bonjour mon cher Erwan. Dans la catégorie joueur de jeux de société, il y a ceux qui aspirent qu'à la rigolade, à la poilade, voire à la déconnade et qui n'hésitent pas à boire un coup pour se marrer avec leurs copains autour d'un bon petit jeu. C'est le constat qu'a dû faire Asmodée puisqu'ils ont décidé de mettre le paquet sur ce qu'on appelle les party games. Et oui, après Time's Up, après Identique, voilà qu'ils nous proposent Buzz It, un jeu signé Rainer Knizia, un Allemand spécialisé dans les jeux dit de réflexion à prise de tête, mais associé cette fois à deux Français, Patrick Charnitsky et René-Jacques Meyer, qui avaient déjà produit un jeu dans le même genre qui répondait au nom de Bac à la carte. Alors comment fonctionne Buzz It? C'est extrêmement simple. Vous avez dans la boîte des cartes avec des thèmes écrits dessus et vous avez une espèce de genre de chronomètre qui vous propose 5 ou 8 secondes. C'est la durée que vous allez avoir pour trouver quelque chose correspondant au thème choisi. Alors mon cher Arwan, c'est extrêmement simple. L'un des joueurs devient le Buzzmaster. Il prend le chronomètre en main. Il énonce le thème et écrit sur la carte qu'il aura pioché préalablement et il déclenche le chronomètre en appuyant sur le bouton. À ce moment-là, le joueur à la gauche du Buzzmaster doit répondre à la question, proposer quelque chose. Si le Buzzmaster est satisfait, il valide en appuyant sur le bouton, ce qui redémarre le chronomètre et le joueur à la gauche du joueur qui vient de parler doit aussi annoncer quelque chose sans répéter ce qui a été dit précédemment et ainsi de suite jusqu'à ce que quelqu'un ne puisse plus trouver de réponse qui satisfasse le Buzzmaster. Alors bien sûr, le Buzzmaster a le droit de faire quelques ajustements en cours de manche. Par exemple, prenons un exemple, on l'abandonne en partant en vacances, un joueur va dire un chien, un joueur va dire un chat, un autre va dire un poney, et là le Buzzmaster va dire ça suffit les animaux, alors le joueur suivant va dire ma belle-mère, et là le Buzzmaster le valide puisqu'il a de l'humour, et le joueur suivant, lui, mort de rire, ne va pas pouvoir répondre, le gong va retentir, il a donc perdu la manche, il récupère la carte en question, et on tourne le Buzzmaster, et on continue ainsi de suite jusqu'à ce qu'un certain nombre de cartes aient été piochées, distribuées, que celui qui en a le plus a perdu, on se marre, on rigole, surtout quand on a bien picolé, enfin picolé avec modération, mon cher Erwan. Donc, au niveau du plaisir ludique, eh ben, il y a deux écoles. Il y a ceux qui vont détester ça, ceux que ça ne va pas amuser, voire même qui vont crier au scandale que l'on puisse vendre ce type de jeu. Et puis, à l'autre bout, vous avez ceux qui vont adorer ça, passer un excellent moment en se marrant avec leurs camarades. Personnellement, je ne picole pas, mais je dois avouer que j'ai de la facilité pour ce type de jeu, mon cher Erwan. Voilà, c'est Buzz It, un jeu signé Rainer Knizia, René-Jacques Mayer et Patrick Schwarnitzky. C'est édité par Asmodée. C'est pour 3 à 15 joueurs à partir de 7 ans jusqu'à 100, 150 ans. Les parties durent 15 à 20 minutes. Vous allez trouver ça aux alentours de 20 euros dans n'importe quelle boutique spécialisée, mon cher Erwan. Voilà, à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine, monsieur Fall. Ça m'a au moins donné envie de voir le test sur TrickTrack.tv. Parce que alors je n'en dirai jamais assez de bien hein, de la version vidéo de TrickTrack.net.
Excellente. Ouais.
Allez voir tout leur enfin leur test, c'est vraiment un super travail.
I knew things were bad when I heard over the squawker that Captain Innes was in charge of the scene.
How many are up there? Do you know? How many hostages? How many hostage takers?
We have the shooters covering the balcony.
Look, we're gonna sit tight and wait for backup. Understand?
Go get him, Shadow!
Le flic au chien loup est de retour.
C'est un jeu pour les mecs, hein. On l'entend tout de suite. Il y a rien à côté.
On sent la testostérone, on sent le.
Ça rigole pas.
Ça sent le mal. Hein. Dead to Rights Retribution, c'est le troisième épisode des aventures de ce flic dont je ne connais pas le nom d'ailleurs. Par ailleurs,
bah non, j'avais noté.
Voilà.
Alors, c'est vrai que c'est assez étonnant. C'est une série qu'on ne s'attendait pas forcément à retrouver aujourd'hui sur les consoles LG. On l'avait un petit peu perdu de vue.
Clairement.
La première version était sortie, je crois, en 2003 sur Xbox et puis après sur d'autres bécanes, qui avait été une bonne surprise.
Ouais,
moi, j'avais bien aimé, en tout cas, le premier.
C'était le côté assez décomplexé, en fait.
Le premier surprenait agréablement, sans être un très, très grand jeu non plus.
C'était une série B avec moi, ce que j'aimais bien. Il y avait des trucs marrants, il y avait des mini-jeux dans le premier, complètement décalés. Il y avait un mini-jeu de danse, un moment pour passer derrière les personnages.
Je te rappelle ce que c'est un jeu d'action à la troisième personne.
C'est une espèce de Max Payne décérébré.
Voilà.
On peut dire, voilà, c'est du jeu d'action flingage à la troisième personne. Teinté un peu de beat's and all, parce qu'il y a pas mal aussi de combats à main nue, on frite pas mal les ennemis, on alterne
moi,
en fait.
Mais moi,
on a le chien, évidemment,
je me rappelle plus non plus de son nom, mais qui nous prête main forte pendant tout le jeu.
Appelons-le Lassie, par exemple.
Ça lui va bien.
Voilà.
Donc voilà, Rétribution, donc c'est le retour un peu de la série qu'on n'avait pas vue depuis quelques années. Alors on retrouve exactement la série là où on l'avait laissée en fait, c'est-à-dire que le principe de jeu n'a pas bougé du tout, on est vraiment sur le même système de jeu. On dirige son personnage, on a son chien auquel on peut donner des ordres pour aller attaquer les ennemis, etc. On a quelques petites nouveautés, on a par exemple des niveaux cette fois où on incarne le chien, on va le piloter, on va prendre le canidé en... On contrôle le canidé dans des niveaux
pour explorer, la qualité des contrôles laisse un petit peu à désirer pour se retrouver, pour faire...
J'ai pas vraiment eu forcément de soucis avec ça, c'est plus au niveau de la réalisation, c'est vrai qu'il est un peu daté le jeu.
Il est pas beau, profite pas
forcément. On a un peu l'impression, il a un côté un peu anachronique quand on le lance aujourd'hui, c'est vrai qu'on a vraiment l'impression de retrouver la série où on l'avait laissé il y a quelques temps.
Le 2 était à chier. Hein.
Le 2 m'avait pas laissé un bon souvenir.
Mais au niveau design,
il avait perdu pas mal de bonnes idées du premier justement. C'était un peu dommage à l'époque.
Au niveau design, ce qui est assez marrant, enfin ou regrettable, c'est que moi ça me rappelle un petit peu la façon dont est designé un jeu comme Just Cause 2. Sauf que Just Cause 2, on l'excuse parce qu'il y a de l'open world, tu peux sauter de 2000 mètres d'altitude, tu vois l'île en entier, tu te rapproches et tout ça. Donc dans ces cas-là, tu dis, le fait que mon personnage soit designé un petit peu à l'arrache et que ce soit pas très next-gen, on est quand même sur
un segment où il y a eu du Gears of War depuis, il y a eu quand même des gros titres. Qui font qu'aujourd'hui on est un peu plus difficile. Maintenant, Dead to Rights, il y a ce côté, moi, ce que j'aime bien, ce que j'affectionne.
Dead to Rights.
Et moi, ce que j'affectionne, c'est le côté vraiment série B, série Z assumé. C'est-à-dire que voilà, on a un scénario de téléfilm complètement lambda, mais on a une action non-stop. Enfin, il y a un côté complètement décérébré du jeu.
Bah disons sans, que c'est vrai que je me rappelle à l'époque sur les deux premiers, enfin c'était des espèces d'ersatz comme tu l'as dit de Max Payne,
mais sans
la
le
qualité,
scénario,
sans cette espèce de touche qui fait le jeu exceptionnel.
J'ai pas joué au 3, mais moi je me rappelle le 1 aussi, c'était aussi le début, enfin avec 2000-2001 avec la PS2 qui se lançait, c'était le début des beat'em all, enfin ou des shoots troisième personne. Mmh, ouais. Maintenant on a bouffé mais des kilomètres et des kilomètres.
Exact,
et des kilomètres.
L'environnement a changé
sur ces 10 dernières années, donc
on a
du mal à voir comment
artificielle des ennemis qui est pas non plus très très élaboré.
Ils sont où les points positifs à part le côté série B et
moi
série Z.
Le côté positif c'est que j'y joue, enfin je continue à y jouer, je trouve qu'il a un côté entraînant, enfin l'action est voilà, il est vraiment non-stop. Et ça fonctionne malgré voilà le fait que voilà on n'a pas.
Tu conseillerais à nos auditeurs quand même ou
Après il faut vraiment.
C'est ça la question.
Il faut vraiment aimer le genre. Non, enfin, c'est vrai que j'aime beaucoup le jeu d'action à la troisième personne, à la Max Payne, etc. C'est vraiment un genre auquel je joue beaucoup, enfin que j'aime bien.
Mais c'est vrai que tu expliquais tout à l'heure genre, de sortir de Splinter Cell et d'arriver là-dessus, ça fait un petit peu
au
mal.
Au niveau technique, c'est un petit peu difficile. Maintenant, je trouve que dans son genre, vraiment du jeu d'action à la troisième personne, décérébré et qui n'a pas de prétention d'infiltration ou autre.
Mais
ça marche,
juste
ça marche.
Pour indication, c'est 70 euros.
Ouais, je crois, oui.
Ouais, donc voilà, en ce moment, avec tous les excellents jeux qui sortent,
c'est peut-être pas la peine.
Mais moi, j'aime bien les niveaux où on contrôle le chien, tout ça. On a une vue où on peut voir les. Non, mais j'ai un peu trippé dessus, voilà, sur tous ces passages-là. Mais bon, après,
c'est ça.
Moi, j'ai bien aimé. Maintenant, bon, c'est vrai qu'il faut. Je pense qu'il faut l'essayer avant.
Ouais, il y a peut-être une démo.
Ouais. Et moi, j'ai retrouvé vraiment le côté série B rigolo.
Série Z, voire.
Z,
ouais, voilà. Par ailleurs, oui, c'est WarioWare, Do It Yourself, c'est sur DS. Ouais. Et alors ça, c'est la jolie claque que je me suis pris cette semaine.
C'est une très bonne idée, ce jeu.
Donc WarioWare, tout le monde connaît ou a entendu, c'est donc cette série de petits jeux de 5 secondes où, en fait, on doit, en 5 secondes, trouver quoi faire et le faire. Sinon, on perd une vie. Et en fait, généralement, c'est complètement débile. La première fois où on fait dans un univers, il y a toute une série de mini-jeux. Il y en a peut-être une trentaine qui peuvent arriver alternativement. Après, le temps s'accélère.
Avec souvent une imagerie rétro, c'est sympa d'ailleurs.
Une imagerie rétro, avec un humour assez pipi caca parfois. Et c'est vraiment marrant. Et moi, j'étais un fan des WarioWare, surtout sur DS et sur GBA.
Sur GBA.
Et donc là, je reçois le truc, je vois pas le DIY, je le vois pas au début. Alors je me dis un nouveau WarioWare, je lance et tout ça. Et finalement, donc il y a effectivement déjà des mini-jeux, il y en a 90 qui sont accessibles, donc où on peut jouer à WarioWare.
Ce qui est beaucoup et pas beaucoup pour
beaucoup
un WarioWare.
Et pas beaucoup pour un WarioWare. Et surtout c'est DIY, c'est Do It Yourself, c'est un générateur, enfin c'est pas un générateur, c'est un constructeur,
un éditeur de jeux
WarioWare. Et alors moi j'ai toujours été très très dubitatif sur les jeux qui permettent de faire des jeux.
Ils sont pas toujours faciles.
Ouais, puis surtout j'ai une qualité de dessin qui équivaut à celle d'un enfant de 2 ans et demi à peu près. Surtout avec un stylet sur un écran tactile de DS, c'est un peu une catastrophe.
Mais aussi de concept de jeu aussi à la base. C'est
voilà,
difficile d'avoir un concept de jeu.
C'est pas facile. Et là, il y a tout. Il y a tout, c'est-à-dire qu'il y a un outil graphique qui permet de faire des animations façon WarioWare, c'est-à-dire finalement un objet est animé avec 4 images.
Donc simplifié,
c'est simplifié pour faire les frames les unes après les autres, c'est assez simple. Tu peux copier-coller de la frame précédente, modifier un petit truc. Le truc très classique, c'est certains dessins animés modernes. Enfin, c'est-à-dire pour avoir une image qui bouge toujours. Par exemple, tu fais une tête, tu la copie-colle et tu changes juste, tu redessines un petit peu par-dessus.
Un des éléments. Hein.
Et ça permet de créer quelque chose, une impression assez marrante.
Et c'est rapide en plus.
Et c'est très rapide. Donc en fait, voilà, il y a un éditeur de dessin, on dessine ces objets, l'animation. Pour chaque objet, il y a 4 animations différentes. On peut dessiner jusqu'à 4 animations différentes. Et après, il y a un éditeur de musique. Éditeur 5 pistes plus une piste de percu avec un champ d'instruments monumental et en plus une touche maestro qui permet de composer la musique automatiquement, c'est-à-dire à chaque fois qu'on appuie sur la touche maestro, ça génère une nouvelle musique. Enfin voilà, c'est très bien.
C'est vraiment un super principe.
Ouais, on n'a pas à se prendre la tête sur la musique si on veut pas se la prendre.
Voilà, et surtout on peut importer des thèmes.
Ça, c'est changer des jeux peut-être. Entre joueurs, c'est ça l'intérêt.
Et surtout le top du top, c'est quand même la partie programmation, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a ces éléments graphiques et les objets, ben on programme le jeu. Et là, c'est dingue. C'est-à-dire que moi, j'étais bluffé. Bon, j'ai une légère formation
il faut rappeler
de lécher les antécédents informatiques.
Voilà, il faut rappeler que toi, tu sais programmer aussi.
Oui, je sais programmer. Mais là, en fait, les tutoriaux sont absolument magiques. C'est-à-dire qu'on apprend... je pense que c'est jouable très très simplement à partir de 12-13 ans, je pense. C'est-à-dire que Wario et sa collègue t'apprennent à programmer en orienté objet, mode de programmation, sans que tu t'en rendes compte. Et c'est absolument, c'est une algorithmique très très simplifiée et où tu appuies sur des boutons, tu choisis, cet objet, par exemple l'exemple typique, c'était le ballon qui explose. Alors le ballon, en fait, il a deux animations. Il a une animation où il est là, où il bouge un tout petit peu dans le ciel, et il y a l'animation de l'explosion, où il fait paf, et puis après il disparaît. Et donc c'est deux frames pour le ballon qui existe, et deux frames pour le ballon qui explose. Et donc voilà, t'as le ballon qui est dans l'écran, et puis tu lui dis, au départ, le ballon il est à tel endroit de l'écran. C'est-à-dire que quand le jeu se charge... tu places le ballon au milieu de l'écran et puis tu lui dis dès le départ il va se diriger vers une direction au hasard, c'est-à-dire qu'il bouge lentement dans une direction au hasard. Donc ça se fait en trois clics. Voilà, tu places le ballon et tu dis dès le départ du jeu il se dirige au hasard. Le but est de l'exploser. Après tu refais une action liée à ce ballon qui est quand on le touche. Et en fait, on change l'animation, c'est-à-dire ce petit ballon qui existait, on passe à l'animation, il explose. Mais à la place de le passer en boucle, on le passe qu'une fois, ça fait que le ballon disparaît. Et en fait, on dit, là, il y a une condition de victoire, c'est quand le ballon explose.
D'accord.
Voilà. Et paf, et en plus on ajoute un bruit d'explosion qui fait partie d'une bibliothèque de sons.
Donc
voilà.
Tu peux faire des bruits décalés aussi, tu peux créer des jeux avec des bruits totalement décalés,
exactement,
etc.
Exactement. Ouais, et du coup, et hop, tu le valides.
Tu mets combien de temps à faire ? Donc on sait que WarioWare c'est des mini-jeux de 5 secondes à peu près.
Voilà.
Et donc tu mets combien de temps à créer
fait le mien s'appelle Souris.
Et nous on peut y accéder à ton jeu, c'est ça l'intérêt.
Si je décide de vous le filer,
tu le mets à dispo et on peut le télécharger normalement.
Oui, bien sûr, mais je le ferai pas c'est un essai. Et donc j'ai dessiné une petite souris qui doit sourire. Voilà, c'est un hyper concept. De jeu.
Et donc t'as mis quoi, 5, 10, 15, 20 minutes ?
J'ai mis le plus long a été de dessiner la souris et les animations et j'ai mis un petit quart d'heure. J'ai mis un petit quart d'heure à le faire parce que c'est un modèle simple, sachant que ça peut être très très évolué parce qu'il y a les trucs de toucher, il y a les trucs où il faut attendre, il y a les trucs où il faut éviter, il y a les objets qui sont liés entre eux. Enfin,
et
voilà,
c'est vrai que s'il y a une communauté qui se développe là-dessus, ça peut vraiment être excellent d'avoir plein de jeux créés par cet outil-là. Ça peut être vraiment intéressant.
La question, par exemple, si t'es pas un créateur, si tu fais 2-3 jeux et pas plus, parce qu'après, pour toi, tu considères que t'as un peu fait le tour du truc et parce que t'es pas très doué. Est-ce que sur le net, intégré au jeu, tu as la possibilité de télécharger, est-ce qu'il y a des jeux
alors
déjà
je
créés
ne crois
par des
pas
non
pour l'instant, mais j'ai peur de dire une bêtise parce que j'ai regardé un peu les menus et il y a un menu Wi-Fi Connect, donc mais j'ai pas regardé ce qu'il y avait derrière ce menu.
Si tu as un pool de niveaux dans lesquels tu peux piocher.
Non, je sais pas encore, mais je pense enfin ce serait logique.
C'est logique, ouais.
Et en fait ce qui est vachement bien, c'est que c'est lié à des jeux WarioWare et sans doute vu que les jeux WarioWare sont généralement mal dessinés parce que c'est dessiné un petit peu à l'arrache, on des concepts hyper simple, et t'es tenté de faire ton petit jeu WarioWare à toi, et franchement, c'est un truc à enseigner en troisième ou
il me semblait qu'il y avait un
quatrième, en troisième. Moi, je me rappelle quand j'étais jeune, j'apprenais un truc qui s'appelait Lotus, où il fallait faire bouger une tortue, enfin, c'était chiant comme la mort, pour apprendre l'informatique. Mais là, on donne ça à des gamins, mais ils apprennent l'informatique beaucoup plus vite.
Je crois qu'il y a WiiWare qui arrive, qui va être lié à ce jeu, je crois, pour pouvoir jouer aux applications sur l'écran.
Il y a un link.
Donc pouvoir peut-être.
Ouais, exactement. Donc très très bonne surprise, WarioWare, do it yourself. On a eu un programme très très chargé aujourd'hui quand même. On vous a parlé de plein de choses, mais voilà, ça finit pour cette semaine. Et la question rituelle, et quand vous ne jouez pas, vous faites quoi ? On commence avec toi, Camille.
Moi c'est un peu de la triche parce que la semaine dernière j'étais en vacances au ski.
Ouais, c'est vrai.
Donc quand je jouais pas, je skiais, et quand je skiais pas, je jouais à Pokémon.
Et tu skiais avec ton Pokéwalker dans la poche ?
Ouais, non, j'ai pas osé parce que si la neige rentre dedans, ça me ferait un petit peu mal quand même.
Ouais, et puis surtout en fait, c'est les mouvements de pas, donc là quand t'es en ski, ça sert à rien.
Moi j'avais super bonne conscience en partant, j'ai pris des bouquins dans mon sac, en fait, ils m'ont pas servi du tout. J'avais un polar suédois L'homme qui sourit, je crois, de Mankell, donc le mec qui écrit des polars suédois le plus connu. Un truc un peu déprimant sur un mec qui veut arrêter le métier de flic au début et puis il va se prendre des vacances à la mer et puis il déprime en faisant la plage en long et en large. Et je suis pas allée au-delà de la page 20 parce que vous comprenez, moi j'ai 250 Pokémon à attraper, donc voilà.
Clément.
Et ben moi j'ai réussi à lire en fait. Alors j'ai lu deux bouquins. J'ai lu le bouquin Shutter Island. J'étais assez déçu.
Ouais, j'ai vu ça sur Sens Critique.
Ouais ouais. J'étais assez déçu. Non pas de. Bref, je vais pas parler de celui-là du coup. Je vais parler en fait d'un bouquin. Et voilà, ça y est. Ma mémoire me fait défaut. Ah si, c'est Château de la colère de. J'ai totalement oublié. Mon Dieu, ça va me revenir. Alessandro Barrico. Voilà. Alessandro Barrico, connu pour notamment Océan Mer, Novecento Pianiste. Et moi j'avais lu Sansan aussi de lui, qui étaient des petits bouquins, assez petits. Et celui-là était un peu plus gros, et moi j'avais peur que son style, que j'adore, se délite un peu. J'avais peur que son style tienne pas sur la longueur. Et sachant que c'est son premier bouquin qui a eu le prix Médicis étranger. Et en fait, j'ai découvert un autre Alessandro Barrico. J'ai découvert ce que j'avais aimé dans un grand classique, Gabriel García Márquez, 100 ans de solitude. Donc une création d'univers, une création de fresques, une création de personnages, vraiment avec beaucoup d'humanité, etc. Et au début, j'ai un peu de mal à rentrer dedans. Et en fait, vraiment, je suis très vite, on se laisse embarquer par cet univers plein d'humanité et fresque de vie. Donc vraiment, celui-là, vraiment, je le conseille. Je le conseille à tout le monde. Il m'avait été conseillé par mon éclaireur Netsebs, à qui je rends hommage. Donc voilà, Château de la colère de Alessandro Barrico.
Patrick.
Alors moi je sais pas, vous en avez peut-être parlé ici, c'est possible. Je suis allé voir Kick-Ass. Donc j'imagine Erwan qui a largement travaillé sur le sujet. Et j'ai trouvé ça super super marrant. Enfin, ça m'a bien fait tripper.
Il est sorti quand récemment? Tout récemment.
Une semaine ou deux, je crois. Et j'ai trouvé que c'était intéressant de poser la question: pourquoi est-ce qu'on n'a pas de super-héros dans la vraie vie? Et j'ai trouvé que c'était intéressant de la poser de cette manière.
Il faut savoir que si on cherche bien sur Internet, il y a des gens qui jouent à être super-héros.
Il y a vraiment Kick-Ass. Il y a des Kick-Ass like sur le.
Ouais, sauf que je pense que finalement ils se battent pas vraiment.
Ils reviennent pas.
Ouais, ils font juste des vidéos YouTube.
Ils font juste des vidéos YouTube.
Je trouvais ça en tout cas super marrant et ça me donne envie de voir le comics.
Ah, je te conseille le comics de Mark Millar et John Romita Jr. Très très bien. Pour ma part, je pensais pas arriver au bout, mais j'ai regardé les 13 épisodes de Spartacus, Blood and Sands. Alors c'est une des séries les plus laides du monde et tout ça, mais enfin c'est un espèce de faux 300.
Ça donne envie tout de suite. Hein.
Non mais de 300 avec du sang numérique qui gicle, un espèce de fond marron.
Voilà, tu sens les effets spéciaux, enfin tu les vois quoi. Ouais. Tu vois les aussi le.
Et sauf que on se prend au jeu quoi. Enfin c'est assez bizarre. C'est assez bizarre. Il faut passer le 4-5e épisode parce que au début Spartacus pleurniche un peu beaucoup et c'est
pas
un grand peu
chose.
T'as 5 épisodes mauvais et après c'est
non, pas mauvais, mais bon, voilà, ça se regarde. Et alors après, quand même, la deuxième partie de la série est assez impressionnante. Faut passer outre une image, une photo un tout petit peu lourdingue. Mais bon, il faut savoir quand même qu'il y a des gens comme il y a un mec comme Sam Raimi à la prod. C'est pas non
mais
plus.
Mais ouais, moi j'ai commencé à mater. C'est vrai que c'est très sec, c'est très gore. C'est aussi pour ça que ça marche.
C'est cul et gore.
C'est cul et gore.
Voilà. Mais bon, j'ai bien aimé. Je suis pas mécontent d'être arrivé au bout. Voilà, c'est fini pour cette semaine. On se retrouve très bientôt pour parler de jeux vidéo sur Libé Labo.
Want truly hydrated skin? Meet Osea's Body Care Breakthrough, Hyaluronic Body Serum. It's clinically proven to increase hydration by 161%. It's lightweight, fast-absorbing, and delivers 24 hours of hydration for silky smooth skin without any sticky afterfeel. Treat your skin to clean, vegan skincare from Osea. Get 10% off your first order with code SUMMER at OseaMalibu.com. That's OseaMalibu.com, code SUMMER.